toutes les évolutions et transformations des pratiques professionnelles ne saurait aujourd'hui se penser sans l'intervention du numérique et des technologies dont le numérique est porteur. C'est vrai pour les personnes, c'est vrai pour les familles accompagnées, c'est vrai forcément pour les professionnels. Que vous les souhaitiez ou non, que vous soyez à l'aise ou non avec ces évolutions technologiques, de fait, le numérique est entré dans nos pratiques, dans vos pratiques, et la crise pandémique, par exemple, a certainement amplifié les effets. Bref, nous avons admis le distanciel, nous avons admis la distance au service de la proximité, et nous l'avons vu s'introduire partout dans nos relations professionnelles. Alors, on laisse maintenant la parole à M. Plantard, que l'on remercie de nous rejoindre, parce que les aléas de la journée de grève l'ont empêché de pouvoir voyager comme il pouvait le souhaiter. Pascal Plantard est anthropologue, il est spécialiste des usages des technologies numériques. Il nous propose de réfléchir au numérique comme fait social total du XXIe siècle et il nous suggère de réfléchir à une éthique de l'accompagnement éducatif, justement, à l'ère du numérique. Je vous en prie.
Bonjour à tous. Merci pour l'invitation et désolé de ne pas être avec vous en présentiel. Je n'ai pas du tout la main sur mon diaporama.
Oui, c'est moi qui le diffuserai, okay. Du coup. Voilà, donc il faudra juste me dire quand est-ce qu'on passe au diaporama suivant. Hein. Alors, c'est quand même pas mal de faire j'ai envie de dire une intervention sur le numérique en visio.
Absolument. C'est pas mal. Hein, c'est la prochaine fois, je vous enverrai mon hologramme.
on veut bien aussi. Hein.
Oui, mais ça demande un peu plus de préparation déjà qu'on a du mal à faire circuler le diaporama. Alors, je veux bien qu'on passe à la diapo suivante. C'était, diapo suivante, encore, j'ai une petite particularité en tant qu'universitaire, c'est que je viens du travail social et que j'ai fini ma formation initiale à l'Université de Montréal et au Massachusetts Institute of Technology, ce qui fait que je me préoccupe de ces questions numériques depuis longtemps, d'abord en tant que professionnel, puis en tant que scientifique. J'ai fait la rencontre dans les années 80 de ce monsieur qui ne doit pas vous dire grand-chose dans le contexte où vous êtes, mais qui n'est ni plus ni moins que l'inventeur des TIS, c'est-à-dire des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement. Monsieur Seymour Papert, décédé il y a quelques années, et qui est l'inventeur de Logo. Et Logo, c'était un langage de programmation des années 80, où vous voyez ces deux formes, en bleu en bas, une tortue de programmation sur écran. Hein. Je vous rappelle que dans les années 80, il n'y avait pas de souris et il fallait communiquer avec les ordinateurs par le code, et dans l'autre, une tortue de sol qui avait été utilisée pour les classes maternelles. Alors, je vais commencer mon propos par une illustration. En 86, je rentre d'Amérique du Nord, on va dire, avec les yeux pleins, remplis des mirages des technologies, et je propose à la maison d'enfants à caractère social dans laquelle je suis éducateur de faire un atelier informatique. Évidemment, dans les années 80, c'est quelque chose qui était assez original et qui a beaucoup plu. Donc, on a lancé cet atelier informatique. On s'est retrouvé avec des collègues qui développaient ça dans l'éducation populaire, avec des ordinateurs. Et on a fait ce que Seymour Papert nous proposait dans son livre et dans ses enseignements, C'est-à-dire de ne pas se positionner comme enseignant, mais se positionner à côté d'eux. Et on a laissé les jeunes découvrir les environnements numériques et le clavier. Et ça s'est très bien passé pour la plupart des adolescents que nous avions en charge. Mais il y en a un qui, à un moment donné, a frappé son prénom sur le clavier. Je l'appelle Bruno depuis. Et la machine lui a répondu que Bruno n'était pas défini. Alors, comme je suis en face de professionnels de l'accompagnement et de l'éducation, je pense que vous voyez comment ça peut résonner pour un jeune en situation de placement. Il va écrire les villes de Loire où sa mère lui avait dit qu'il y avait peut-être un père. Les villes ne sont pas plus définies. C'est un gaillard de 13 ans. Il prend le clavier. Il commence à vouloir démonter l'écran. On intervient bien évidemment. Et pourquoi je vous raconte cette situation ? Parce que c'est mon premier grand pas de côté professionnel qui va devenir un pas de côté scientifique après. L'idée qu'on ne peut pas être à la fois accompagnant, médiateur des questions informatiques puis numériques si on n'a pas eu une réflexion sur les usages. Notre métier, ce n'est pas de devenir informaticien, c'est de faire avec les technologies numériques. Et ça se niche beaucoup dans les dimensions représentation, culture et symbolique que je vais développer à la suite. Je veux bien la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, je vais vous parler essentiellement aujourd'hui du point de vue des sciences humaines et sociales, puisque j'ai la chance de diriger le plus gros réseau de recherche sur les usages des technologies francophones, qui se situe en Bretagne, qui assemble les universités du Grand Ouest et 18 laboratoires de sciences humaines et sociales, qui travaille la question des usages des technologies. Diapo suivante. Donc notre boulot, c'est de comprendre finalement la transformation de la société numérique du point de vue des sciences humaines et sociales, en croisant des méthodologies d'enquête. Donc, on est devenu une des références scientifiques en ce qui concerne les usages des technologies numériques par la population française. Et tout un tas de travaux plus qualitatifs, plus recherche, convoquant les sciences humaines et sociales au sens là. Voilà. Pour arriver à l'introduction de mon propos et vous donner quelques repères. L'idée de considérer le numérique comme fait social total, c'est peut-être l'idée qu'on prenne l'exacte mesure de ce qui s'est passé dans les deux dernières années avec la pandémie. Très très simple, il me semble que nous étions aux prises avec tout un tas de représentations des technologies numériques qui étaient héritées du 19e et du 20e siècle. Et que finalement, la nécessité de recourir au numérique pendant les confinements et la pandémie renvoie bien à ce que racontait Marcel Mauss du point de vue de la socio-anthropologie, c'est-à-dire cette idée que finalement, à un moment donné, en général, c'est les crises, les épidémies, etc. Alors, on est dans ces temporalités-là. Mais c'est un mouvement, en fait, entier qui aujourd'hui peut être analysé du point de vue, finalement, de l'évolution des usages, à la fois récentes, mais qui s'inscrit quand même sur le temps long. Je veux bien la diapo suivante. Avec cette idée que le fait social total numérique se révèle dans trois focales. La première focale, c'est ce qu'on va appeler la profondeur historique, ce qui renvoie à ce que Georges Balandier appelait les techno-imaginaires. Pour Balandier et pour une grande partie des anthropologues qui s'intéressent à ces questions-là aujourd'hui, les technologies numériques ont une profondeur mythologique qui renvoie au fond de très centré dans les cultures occidentales, et qui renvoie à une image beaucoup plus longue en termes historiques que ce que le marketing nous fait passer. Deuxième élément très important, ce qu'on appelle les signaux faibles. Alors nous, ça fait 20 ans avec les Marsouins qu'on travaille sur des études d'usage. On va dire l'arrivée du premier confinement et l'arrivée d'un certain nombre de discours médiatiques et politiques sur la situation. Je pense au fameux l'éducation nationale est prête, ministre Blanquer. Nos études de 2019 montraient que finalement l'achat des familles concernant les ordinateurs était en baisse, que seulement 20% possédait des imprimantes et que environ 12% des familles n'étaient pas équipées du tout de technologie. Donc on voit bien que ces titres faibles-là...
Juste un instant, Pascal, il y a un problème de connexion. On n'est pas sur le bon Wi-Fi, je crois, donc il faut juste qu'on se connecte sur le bon Wi-Fi. Je ne sais pas s'il y a Laurence ou Jean-Jacques qui est là, qui peut chercher le technicien d'urgence. J'ai déjà envoyé pour qu'il nous connecte au Wi-Fi premium, parce qu'on est sur le Wi-Fi des pauvres, là. Voilà.
Ça marche pas bien.
Ben, ça marche, mais du coup, je pense qu'il faut parler un peu plus doucement et bien articulé parce que ça saccade un peu par moment, juste le temps de 3 minutes qu'on arrive à connecter au bon Wi-Fi.
Ok. Moi, je suis en filaire. Hein. J'étais justement en train de parler des études d'usage et en particulier des connexions. Donc là, on a droit à une inversion totale, la Bretagne hyper connectée et Paris avec des problèmes de Wi-Fi. Ce qui est, bon, en général, l'inverse. Hein. Vous me dites hein, quand je peux reprendre.
Bah, là, ça va, donc continuez.
Ok. La troisième focale finalement du fait social total, c'est l'idée de la transformation psychodynamique généralisée de nos interactions. Et je vais reprendre ça après. Il est évident qu'à regarder les usages des technologies numériques comme des normes sociales d'usage, on a des grilles d'interprétation qui décrivent des transformations de la plupart des processus humains. De type communication, éducation, formation, enseignement, etc. etc. Donc, ça renvoie à des représentations qui ont besoin d'être stabilisées parce qu'elles sont difficiles à appréhender.
Allez-y.
Voilà. Donc, ce qui nécessite finalement de retravailler anthropologiquement un certain nombre de processus, on va dire, humains, et en particulier, dans les sujets qui nous concernent directement, les formes éducatives, scolaires ou universitaires, en les soumettant, on va dire, à une analyse un peu plus critique que celle qui a pu y avoir dans les dernières années. Je veux bien la diapo. Alors, l'idée même de l'anthropologie des usages, c'est l'idée de regarder ces technologies sur le temps long et d'identifier la dimension imaginaire et symbolique des technologies numériques. Diapo suivante, je vais essayer de raccourcir un peu. Le numérique est finalement un monde aussi de terminologie et de mots qui correspondent à la fois à des sciences et des processus et des phénomènes sociaux historiques et à des périodes historiques. Donc, la numérisation est un processus qui date des années 30 du siècle dernier, puisque c'est le codage des informations analogiques vers des informations numériques. Donc, le processus de numérisation en tant que processus existe depuis beaucoup plus longtemps que le moment où nous avons commencé à le qualifier, il y a une petite dizaine d'années, à qualifier nos environnements technologiques comme environnement numérique. Alors, qu'est-ce que c'est que le numérique? Si on faisait un sondage entre vous, chacun donnerait sa définition. Et ce qui serait très intéressant, c'est peut-être que ces définitions sont plutôt issues de parcours expérientiels d'usagers et dépendent de la manière dont vous avez rencontré et vous avez utilisé ces technologies dans les années précédentes. Le numérique tel qu'on le conçoit aujourd'hui doit être analysé avec finalement quatre entrées ou quatre pieds, si vous préférez. Le premier pied, c'est le pied qui va s'enraciner dans les années 60, 70, début des années 80, avec l'arrivée du micro-ordinateur dans les familles, qui est l'informatique. Hein. Pas bien que le plan informatique pour tous, le premier plan numérique éducatif s'est appelé le plan informatique pour tous. Hein. On est dans les années 80 et l'arrivée du micro-ordinateur va changer les choses. Début des années 90, hein, 1992, l'Internet que nous avons aujourd'hui est inventé puis libéralisé au sens le code est distribué à la planète entière par Tim Berners-Lee et son équipe du CERN de Genève. Donc on va dire qu'avec l'informatique et l'Internet, avec le code et les réseaux, on a les ingrédients technologiques pour arriver finalement au numérique que nous avons aujourd'hui, qui est un numérique ambiant, les injonctions numériques se sont développées encore plus dans les deux dernières années. En contrepoint de ces deux repères technologiques, il y en a deux autres. Le premier, c'est ce qu'on appelle les cybercultures, donc des cultures qui sont saturées d'imaginaire. Et pour vous donner une illustration, si on analyse ce que regardent aujourd'hui massivement nos adolescents, on doit se rappeler qu'à mon adolescence, c'est-à-dire il y a quelques années, il s'agissait de bandes dessinées en noir et blanc de mauvaise qualité qu'on s'échangeait entre ados. Je suis en train de vous parler des comics, des DC Comics, de Marvel, etc. À la fin des années 70, début des années 80, vous y rajoutez les jeux de rôle et la science-fiction. Vous avez une culture de geek qui est installée de manière tout à fait minoritaire. Il est qu'aujourd'hui, elle a traversé la planète et est devenue une des sources culturelles les plus importantes, en particulier de la jeunesse. Et enfin, le dernier point, c'est la question des usages. Qu'est-ce que c'est que les usages? C'est une gamme infinie de pratiques individuelles et collectives, des technologies, mais c'est probablement l'un des concepts les plus importants de ce que je vais vous raconter. Je veux bien la diapo suivante, voilà, avec son petit effet si possible. En fait, dans les années 90, on est dans le rêve de l'Internet, on est dans la période où on va parer l'Internet de tout un tas de vertus. Et on commence à opposer les mondes réels et les mondes virtuels. En fait, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que tous les mondes numériques, quels qu'ils soient, y compris le métaverse aujourd'hui, sont des mondes qui sont arrimés à des réalités sociales, historiques, économiques, etc. Donc il y a un continuum entre le social et le numérique. Et ce qui fait qu'on théorise aujourd'hui les usages comme des ensembles de pratiques socialisées, c'est-à-dire des normes sociales d'usage. Hein. Ce qui permet de bien comprendre finalement les continuums entre les pratiques non numériques et les pratiques numériques. Je veux bien la diapo suivante. Alors, pour illustrer ça, je vais prendre l'exemple de Facebook. alors que vous connaissez tous, évidemment. Vous vous rappelez probablement avoir entendu dire que Facebook avait été inventé il y a une douzaine d'années par un jeune homme qui s'appelle Mark Zuckerberg, dans une grande école américaine qui s'appelle Harvard. Et ensuite, on a droit à une success story à l'américaine, ce jeune homme devenant multimillionnaire et créant aujourd'hui un grand groupe d'influence et de pression très, 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 très important. En fait, ce qui s'est passé effectivement, c'est que Zuckerberg a proposé un site. Sur ce site, il proposait de mettre des photos d'étudiants et les étudiants avaient le loisir de noter les photos d'étudiantes et de mettre des commentaires graveleux dessus. Vous voyez qu'après MeToo, cette innovation technologique et sociale est un petit peu particulière, nous allons. Alors, autre côté du monde, je suis en train de partir, de faire sans le diaporama, parce que c'est pas forcément...
Non, mais je change un peu, je pense que c'est agréable aussi de voir une personne, pas qu'on est...
Oui, tout à fait. Par contre, je vais peut-être l'ouvrir à côté de mon écran. Mais non, mais il n'y avait pas de souci. Non, revenez sur Facebook. Et donc, de l'autre, la Silicon Valley mondiale, c'est-à-dire en Bretagne, à Lannion, nous avions un jeune Marsouin qui était un jeune chercheur du GIS, Olivier Trétan, qui était en train d'étudier les pratiques numériques des collégiens de l'ensemble des Côtes d'Armor. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Il constatait que les jeunes filles, les collégiennes, étaient en train d'arriver dans les mondes numériques. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais les blogs, la blogosphère Skyblog, je pense que certains d'entre vous étaient peut-être au collège à ce moment-là, et bien la dimension épistolaire, en fait, la dimension littéraire de cette technologie a attiré tout un tas de jeunes collégiennes. En même temps, les communications explosaient. C'est les années où les SMS sont devenus monnaie courante, parce que les ados, on échange plusieurs centaines par jour. La messagerie instantanée était en train de se développer aussi. En plus de ça, on va dire, les petits musiciens ou musiciennes du collège de Saint-Brieuc regardaient les lycéens ou les étudiants musiciens de Rennes qui eux-mêmes regardaient les professionnels qui passaient soit au France Musicale, soit aux Vieilles Charrues. En même temps, je vous fais un peu de publicité culturelle pour la Bretagne. Et tout ce beau monde allait se retrouver sur MySpace, le réseau social spécialisé des musiciens. On a constaté la même chose avec les photographes sur Flickr, etc. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que finalement, Zuckerberg n'est pas un inventeur génial. C'est quelqu'un qui s'est trouvé au bon moment, au bon endroit, et que les ados de la planète avaient déjà les pratiques numériques que Facebook va ensuite développer. Ça s'appelle le braconnage, et donc c'est une belle illustration du fait que à la fois nous dépendons des normes sociales d'usage, mais en même temps, par détournement des offres technologiques, nous participons à la construction de ces normes sociales d'usage. Alors, je continue la démonstration avec les ados. Facebook est donc la norme sociale d'usage des réseaux sociaux numériques. Mais vous savez que le boulot des ados, c'est quand même de passer leur temps à contester la norme, à se confronter à la norme, se frictionner avec les adultes de manière à faire société et à grandir. Eh bien, si nos ados ne sont plus sur Facebook, vous allez regarder dans votre entourage, vous allez vous rendre compte que les ados qui sont sur Facebook aujourd'hui sont des ados qui sont présents sur un Facebook de famille, par exemple. Vous constaterez que la photo du Facebook de famille, ils sont beaux comme des communiants, qu'on dirait, hein, voilà, on a une très belle photo. Ou alors, ils sont sur la photo du club de judo, et là, forcément, ils sont en kimono. Ou ils sont Oui, je continue.
Oui, allez-y.
Voilà, où ils sont sur la photo de l'école de musique qui affiche ses cours sur la page Facebook, et forcément, ils posent avec leur instrument de musique. Là où ils jouent leur rôle d'adolescent, de confrontation aux normes d'usage, en essayant, entre pairs, de voir jusqu'où ils peuvent aller sur les réseaux sociaux, vous le savez tous, c'est sur TikTok pour les plus jeunes, Instagram et Snapchat pour les collégiens et les lycéens. Démonstration, en fait, cette norme sociale d'usage, les normes sociales d'usage des technologies numériques sont co-construites et qu'elles progressent dans le temps. Hein, que finalement, Facebook n'a plus du tout le même statut aujourd'hui qu'il l'avait avant. Alors, on a pris du retard, il y a eu des trucs techniques. J'ai jusqu'à... il me reste combien de temps d'intervention avant
5 minutes.
Dans les questions-réponses?
Environ 5 minutes, ouais. Alors, songez, je pense, tout doucement à terminer, d'autant plus que c'est assez compliqué quand même, on le ressent dans la salle, d'accrocher sur de la visio malgré la pertinence du sujet.
Alors, vous me dites 5 minutes, ok. Alors, on va peut-être, dans ces cas-là, je vais peut-être reprendre mon propre diaporama, puis je vous enverrai les illustrations si vous avez besoin, mais retirez les diapos. Je vais essayer de recentrer. Voilà. Mettez-vous sur. Voilà. Bah, on peut garder cette dernière diapo. Qu'est-ce qu'elle dit, cette dernière diapo? Elle dit que nous avons à disposition des technos imaginaires, que ces technos imaginaires se cristallisent en représentation et qu'on a besoin de la représentation pour savoir qu'un clavier est un clavier, un téléphone et une souris, une souris. C'est les représentations qui déclenchent les pratiques qui se socialisent et deviennent des normes sociales d'usage et transforment, on va dire, des imaginaires technologiques. Alors, voilà, je vais pas développer plus ça, je vais illustrer avec les sujets qui nous intéressent directement. Est-ce que vous pouvez me repasser en caméra et puis supprimer le PowerPoint? Voilà. Donc, ces techno-imaginaires ne sont pas neutres. Ils sont très présents dans la manière dont on se représente les technologies. Alors, je vais essayer de vous tordre le cou de deux imaginaires numériques qui sont envahissants et qui sont compliqués pour réfléchir l'accompagnement social et éducatif. Le premier, c'est la fracture numérique. Alors, j'ai publié en 2011 un bouquin qui s'appelle « Pour en finir avec la fracture numérique ». Il est très clair que je n'avais pas l'ambition d'en finir avec les inégalités d'accès et d'usage aux technologies numériques, mais avec la notion. Cette notion est contemporaine du développement de l'Internet. Et c'est le président des États-Unis, Bill Clinton, qui en 1996 parle d'une « digital divide ». Pour vous resituer les choses, cette fracture numérique en 96 aux États-Unis, il n'y a que 1,5% de la population qui est équipée connectée. Donc, qu'est-ce que nous fait Bill Clinton? Il nous raconte que finalement, l'Internet va résoudre tous les problèmes et que finalement, les Américains sont ceux qui vont proposer cet Internet à la planète entière. C'est probablement pour ça qu'on a les GAFA aujourd'hui, alors que je vous rappelle, le web a été inventé par les Européens et sur des crédits publics de recherche. Alors ça a une conséquence, c'est cette idée qu'on va poursuivre et les politiques publiques et les politiques industrielles jusqu'à un mirage de 100% d'équipés connectés à l'Internet. Alors, les derniers chiffres, c'est qu'en fait, nous sommes 91% d'internautes. Un internaute, c'est quelqu'un qui s'est connecté dans les deux derniers mois à Internet. Vous voyez qu'on brasse large. Hein. Ça permettait de mesurer l'Internet des années 2000. Qu'on serait 9% de non-internautes. Il s'avère que ces chiffres sont stables dans les pays qui ont été les plus équipés et connectés dans les 10 dernières années, notamment la Corée du Sud. On sait par exemple qu'ils sont arrivés il y a 5-6 ans à 90%, mais qu'ils restent en fait à 90%. Donc ce qu'on doit bien intégrer, c'est qu'il y a toujours 10% au moins de la population qui est non-internaute au sens fort du terme. Et nous avons retravaillé ces définitions en travaillant les principaux usages. Donc, les réseaux sociaux, la recherche instantanée, moteur de recherche et le mail. En fait, en réduisant l'échelle hein, à 2 semaines, 1 semaine ou quotidiennement, et en fait, on en arrive à peu près 18% de la population. Et donc, on arrive à peu près à 82% pour le reste. On va dire, il y a 82% de la population française pour qui l'usage des technologies est relativement fluide, mais il reste 18% pour lequel c'est plus compliqué. Et en gros, ces 18% renvoient aux chiffres qu'on avait déjà identifiés de 13 millions de personnes que l'on doit considérer finalement dans leur situation. Et donc, les repères que je vous donne, ça permet effectivement d'identifier qu'on ne réagit pas du tout de la même manière lorsqu'il s'agit de problèmes de zone blanche ou de difficultés de connexion. Ça, c'est des problèmes d'accompagnement, d'aménagement du territoire. Là où on a des problèmes d'usage, finalement, où les questions d'accompagnement éducatif et social sont à mettre en avant. Deuxième imaginaire auquel il faut absolument tordre le cou, l'histoire des la génération Y et des natives. Ça, c'est un slogan d'un journaliste qui s'appelle Mark Prensky. En fait, il y a autant, tous les travaux de recherche démontrent qu'il y a autant de différences d'usage au sein d'une même classe d'âge qu'entre les classes d'âge, et que finalement, énormément de jeunes aujourd'hui sont connectés H24 sur leur smartphone et les réseaux sociaux, mais ne comprennent pas la commande scolaire, ne comprennent pas les injonctions administratives, sont en difficulté quand il s'agit de rédiger un CV ou de s'inscrire sur un site de recherche d'emploi. Vous voyez que finalement, réduire ça au fait d'être né avec les technologies, c'est quelque chose qui nous met de côté, en fait, et qui nous aveugle s'il s'agit de faire de la médiation numérique, ou de l'accompagnement numérique. Pourquoi ? Parce que dans nos travaux, et je cite régulièrement la thèse de Yann Guéguin qui travaille avec les élèves et les familles de secte de Brest, eh bien, on assiste dans les familles populaires à un dessaisissement parental. Ce sont des parents qui sont en difficulté vis-à-vis de l'école et assez souvent en relation avec les services sociaux, donc qui sont victimes d'un processus de stigmatisation. Il s'avère dans les familles, à force de raconter cette histoire de digital native, eh bien, des parents fragilisés intègrent cette représentation et laissent leurs ados gérer les technologies. Et on assiste en fait à un dessaisissement parental au fait qu'on va laisser nos jeunes tout seuls dans les mondes numériques, ce qui explique pourquoi régulièrement dans la presse, on a ces paniques morales autour des réseaux sociaux, autour de ce qui s'est passé auprès de en janvier dernier en Angleterre, le meurtre de cet adolescent, enfin voilà, les questions de harcèlement, etc. Et il me semble qu'il faut absolument qu'on se ressaisisse. Les ados d'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui construisent des normes sociales d'usage, y compris avec les technologies numériques. Et dans les mondes numériques, en gros, ils ne rencontrent pas beaucoup d'adultes de référence. Quand ils rencontrent des adultes, ce n'est pas souvent des adultes de référence. Je finis, parce que l'exercice est un peu compliqué quand même, pour essayer de réfléchir à cette éthique ou à cette... à cette, enfin, à des pistes en tout cas pour réfléchir l'accompagnement au numérique, la médiation numérique.
Alors ce sera pour conclure effectivement, si vous voulez bien, en 2 minutes.
Oui, au moins.
Merci.
Ça marche. Je fais ça. J'avais prévu une demi-heure, mais bon, avec les questions techniques, on est un peu contraint. Donc, la première chose que je voulais vous dire sur cette dimension-là, c'est qu'en fait, on est vraiment piégé par ces imaginaires et ils vont se nicher dans des notions qu'on ne questionne jamais. Alors, par exemple, la question des compétences ou la question de l'électronisme lié à l'illettrisme. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Lire, écrire, computer, c'est pas une suite logique. Ça renvoie à un capital social, un capital économique et surtout à un capital culturel très différencié. Et on a eu une chance. On a un prix Nobel de sciences économiques qui s'appelle Amartya Sen, qui nous a raconté cette histoire de capacité. Donc, on a tendance à regarder le numérique à travers les compétences numériques, mais on oublie que dans la notion de compétence, il y a la notion immédiate d'évaluation des compétences, donc d'incompétence quelque part, de classification. Et Amartya Sen nous raconte que finalement, quand on est un génie en mathématiques, je pense à notre médaille Fields de mathématiques, c'est quand même plus facile d'exprimer son génie en mathématiques quand on habite dans le 5e arrondissement de Paris avec des parents qui sont cadres supérieurs ou cadres intellectuels. Lorsqu'on est dans une favela de l'Inde ou du Brésil, eh bien, jamais on aura l'occasion d'exprimer ça. C'est la théorie des capacités. Et donc, ça resitue finalement cette question de l'accompagnement numérique dans les problématiques des fameux environnements capacitants, c'est-à-dire l'idée de pouvoir développer l'autonomie des individus et d'accroître leurs possibilités, leur pouvoir d'agir avec le numérique. Et ça rejoint les grands sujets sociétaux d'aujourd'hui. Quand je vous raconte le dessaisissement parental, ce que je vous raconte en creux, c'est lorsqu'un ado d'une famille populaire perd son mot de passe, c'est tellement compliqué de réactiver un mot de passe sur un smartphone qu'on va jeter le smartphone et en racheter un nouveau. Et on rachète un nouveau à des prix incroyables parce que, vous savez bien, c'est inclus dans l'abonnement, etc. Si on veut agir une forme de transition écologique, sociale, on revient à cette notion de bien commun. On revient à cette notion de préservation des écosystèmes et des ressources, là, numériques. Et les acteurs de l'accompagnement éducatif et de la médiation numérique sont la cheville ouvrière de ça. C'est-à-dire que l'accompagnement des publics qui surconsomment, ils ne vont pas sous-consommer ou ne vont pas se mettre à devenir des consommateurs conscients et vertueux des technologies numériques tout seuls. Il y a quelque chose d'autre que l'injonction à faire doit fonctionner. Et cette injonction à faire, c'est du point de vue de l'accompagnement éducatif et de la médiation numérique. Pour ça, il me semble que les grandes fédérations se saisissent de ce sujet-là, à la fois pour reconnaître la médiation et l'accompagnement numérique dans la pratique de leurs adhérents, et aussi en les accompagnant et en les formant. Et je conclue là-dessus.
Merci, bon, Monsieur Plantard.
Je l'espère un peu. Ouais.
Merci, c'était forcément compliqué d'avoir cette intervention comme sous cette forme-là, mais...
Bonjour, je suis Madame Rive de l'UDEF 54. C'est juste une réaction. Effectivement, le numérique, ça touche tout le monde aujourd'hui, dans tous les métiers, y compris dans l'enseignement. Avant de reprendre mon métier de travailleur social, j'ai été pendant 6 ans en enseignement et je rebondis sur ce que notre intervenant a dit. Je pense que ce qui est important de souligner, c'est comment, même nous, à notre niveau de travailleurs sociaux, on met à disposition les outils numériques, en fait. Parce que, effectivement, moi, évaluer mes élèves avec des compétences en cochant avec des jolies couleurs, du vert, orange jusqu'au rouge, pour dire que c'était pas acquis, je trouve qu'il n'y avait aucun intérêt et c'est que ce n'est pas le bon outil pour évaluer et juger ou pas si la personne est apte à utiliser et à bien utiliser un outil numérique. Et je rebondis, je crois que l'année dernière, malheureusement, je ne me souviens plus quels étaient les collègues qui utilisaient l'outil informatique mis à disposition de nos usagers. Mais justement, ce qui serait intéressant, nous, en tant que travailleurs sociaux, c'est d'éduquer au numérique nos usagers, mais de la bonne façon, en mettant les bons outils à leur disposition, ne serait-ce que les outils pour la CAF ou autres, voilà, qui leur sont utiles dans la vie de tous les jours.
Merci. Monsieur Plantard ?
Évidemment que je souscris. Là, c'était très compliqué, mais une partie de notre boulot avec les Marsouins, c'est d'essayer de vous donner des outils conceptuels pour comprendre ça. Et typiquement, ce qui vient d'être dit là, c'est la différence entre outils numériques et instruments, avec cette idée que finalement, c'est beaucoup plus compliqué qu'un outil, et que ça dépend du contexte de présentation, ça dépend du contexte... le meilleur logiciel éducatif possible peut s'avérer être totalement catastrophique quand il est mal foutu, mal présenté, pas accompagné du tout, etc. Et donc, effectivement, il y a tout un travail à faire sur comment on intègre ces instruments technologiques dans nos environnements capacitants, y compris à l'éducation nationale et dans l'enseignement. Les gamins de SECPA dont je vous parlais tout à l'heure, un certain nombre n'ont pas la moindre idée de ce qu'il y a derrière les smartphones. Ils vont vous répondre, mon smartphone, il n'a pas l'Internet, parce que la représentation qu'ils ont de l'Internet, c'est ce qu'ils ont vu à l'école sur un écran d'ordinateur avec une souris. Or, on est bien d'accord, ils surfent, ils sont sur les réseaux sociaux. Vous voyez que travailler avec des élèves ou des jeunes qui ont ces représentations-là, ce n'est pas du tout la même chose que de travailler avec des gamins qui savent parfaitement que derrière un smartphone, il y a un fournisseur d'accès, qui est connecté sur Internet, comment fonctionne l'Internet, etc. Donc on est devant un grand chantier de ressaisissement éducatif. J'ai un peu pointé les difficultés des familles populaires, mais c'est vraiment un chantier général et ça concerne tout le monde.
Merci.